Donc aujourd'hui, ensemble, nous allons partager ce texte, cette pensée, ce moment de Noël. C'est vrai que Noël approche.
Et nous allons nous rappeler de certaines choses essentielles. Alors déjà, effectivement, et en venant, c'était un peu flagrant, il suffit de se promener pour voir des illuminations, des guirlandes, des maisons décorées, et on se dit, mais qu'est-ce qui se passe? Pourquoi? Pourquoi toutes ces illuminations? Et année après année, on se rend compte que les choses se perdurent de cette manière. Alors on appelle ça, nous sommes dans la période de la fête de Noël, ou des fêtes de fin d'année, parce qu'il y en a, hein, après il y aura le réveillon, le changement d'année. Donc qu'est-ce que c'est Noël? Ça va être l'occasion de festoyer en famille, parfois entre amis. Ça va être l'échange de cadeaux, on va entendre parler du Père Noël, hein, surtout pour les enfants. J'en dirai pas plus hein, pour le Père Noël, hein. Pas trahir certaines choses. On parle aussi, on fait la décoration du sapin, l'illumination dans les rues, les belles vitrines, les maisons parées de guirlandes. Là, mes voisins sont en train de rivaliser de création et d'imagination pour qui aura une guirlande bleue qui clignote et des petits animaux qui sautent dans le jardin. Bon, c'est ma foi fort sympathique. Et alors, il y a aussi la ruée dans les magasins. Les offres commerciales, les promotions de fin d'année pour que chacun achète des cadeaux. On peut aussi voir la crèche. Hein? Et puis on entend parler aussi du petit Jésus. Enfin, de moins en moins quand même, on entend parler du petit Jésus. Hein? L'orientation se veut plus commerciale et plus festive. On reviendra sur la notion du petit Jésus. Et année après année, on se prépare et on répète les mêmes choses et on fait les mêmes gestes. Alors Noël représente souvent la fête, hein, bien sûr, les tables bien garnies, les petits kilos qui vont venir s'additionner, qu'il va falloir penser, après ça va être janvier, ça va être attention maintenant, vous avez bien profité, c'est l'heure du régime. Il y a bien un aspect religieux dans cette fête de Noël. Mais, comme je disais tout à l'heure, annuellement, Jésus, c'est le petit enfant dans la crèche. C'est le petit bébé. Alors là, il suffit qu'il y ait un bébé qui soit là, et puis tous les regards se tournent vers lui, on a envie de le prendre, de le jouer, de le caresser, sauf quand il bave, hein, si j'ai bien compris. Et là, on a lu donc... Et pour ceux qui n'ont pas encore lu cette histoire, le petit Jésus, enfin Jésus je vais dire, hein, parce que c'est un peu péjoratif de dire le petit Jésus, ce petit enfant qui est né dans une étable, sur de la paille, dans la plus grande simplicité. Et année après année, on remet Jésus dans le contexte, dans la crèche, avec les animaux, sur de la paille, et tous les ans, Jésus ne fête jamais son premier anniversaire parce qu'à chaque fois il naît. Un an, hop, il naît, ainsi de suite. Voilà, il grandit jamais. Alors certains parents, enfin, pour ma part, étant parent, parfois je me dis, ah, si les enfants ne pouvaient jamais grandir, qu'est-ce que ça serait bien? Il y a des avantages et il y a des inconvénients, bien sûr. Alors, on s'émeut devant ces petits êtres adorables, bien sûr. Je vais quand même, peut-être pour certains, briser un petit peu une petite vitre, quelque part, une petite pensée. Peut-être je vais vous surprendre, mais vous savez que Jésus n'est pas né en décembre. Et vous savez pourquoi ? Parce que là où il est né, ce n'est pas la période pour les bergers de faire paître leurs troupeaux. En décembre, les troupeaux sont à l'abri. Donc, et pourquoi ? Et pourquoi on s'est retrouvé à fêter Noël, à fêter la naissance de Jésus, le 25 décembre ? Eh bien, tout simplement, c'est parce que dans le calendrier annuel, il y avait déjà toute une série de fêtes, de périodes, les moissons, les préparations, les fêtes de ceci, les fêtes de cela. Et bien le dernier créneau festif, c'était la fin décembre. Voilà, voilà pourquoi. Ce qui permet de dire que, ben, tout compte fait, pourquoi se souvenir de la naissance de Jésus que là, on aurait très bien pu d'ailleurs faire un message de Noël au mois d'avril, ou au mois de juin, pourquoi pas? Alors ce qui peut nous faire dire, ben, pourquoi on ne pense pas à Jésus tous les jours? Tous les jours, pas simplement l'évoquer aujourd'hui, se rappeler, ah oui, c'est vrai, au fait, Jésus est né le 25 décembre, on vient de dire que c'est bon, c'est pas cette date-là, mais bon, on a décidé que, arbitrairement, le 25 décembre. Ah oui, c'est vrai, Jésus est né, un jour il est né. C'est un bel petit enfant. Mais les autres jours de l'année, est-ce qu'on se souvient de sa naissance, certes, mais pas que de sa naissance, surtout du reste de son existence? Vous savez, sa naissance ne passa pas aperçue, même dans cette petite contrée éloignée, si petite sur la carte. D'ailleurs, vous savez que sa naissance avait été annoncée. Alors, nous, on pourrait se dire, monsieur et madame un tel, on voit que madame est enceinte, ah, la naissance est annoncée. Mais elle n'a pas été annoncée 5 ans à l'avance, même 2 ans à l'avance. Ben là, la naissance de Jésus a été annoncée des siècles en avance. Environ 700 ans avant. Le prophète Ésaïe, au chapitre 7, au verset 14, il écrivait déjà ceci. C'est pourquoi le Seigneur lui-même vous donnera un signe. Voici, la jeune fille deviendra enceinte, elle enfantera un fils, et elle lui donnera le nom d'Emmanuel. C'était déjà écrit. Ça allait arriver. Il n'a pas dit ça va arriver dans 700 ans, mais ça va arriver. Et puis, au chapitre 9, toujours d'Ésaïe, au verset 5, « Car un enfant nous est né, un fils nous est donné, et la domination reposera sur son épaule. On l'appellera admirable, conseiller, Dieu puissant, Père éternel, Prince de la paix. » Et puis toujours, je vais citer encore Ésaïe, grand prophète, hein, fortement conduit par Dieu pour écrire tellement de prophéties, hein, des choses qui peut-être lui-même n'en saisissait pas la portée, mais il a écrit, il a reçu cette parole de Dieu et il l'a écrit. Et au chapitre 53, à partir du verset 2, il écrit aussi ceci. Il s'est élevé devant lui comme une faible plante, comme un rejeton qui sort d'une terre desséchée. Il n'avait ni beauté ni éclat pour attirer nos regards, et son aspect n'avait rien pour nous plaire. Méprisé et abandonné des hommes, homme de douleur et habitué à la souffrance, semblable à celui dont on détourne le visage, nous l'avons dédaigné, nous n'avons fait de lui aucun cas. Cependant, ce sont nos souffrances qu'il a portées. C'est de nos douleurs qu'il s'est chargé. Et nous l'avons considéré comme puni, frappé de Dieu et humilié. Mais il était blessé pour mes péchés, brisé pour mes iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Et c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. Nous étions tous errants comme des brebis. Chacun suivait sa propre voie. Et l'Éternel a fait tomber sur lui l'iniquité de nous tous. Il a été maltraité, il a été opprimé et il n'a point ouvert la bouche. Semblable à un agneau qu'on mène à la boucherie, à une brebis muette devant ceux qui l'attendent, il n'a point ouvert la bouche. Il a été enlevé par l'angoisse et le châtiment, et parmi ceux de sa génération, qui a cru qu'il était retranché de la terre des vivants et frappé pour les péchés de mon peuple? On a mis son sépulcre parmi les méchants, son tombeau avec le riche. Quoiqu'il n'eût point commis de violence et qu'il n'y eût point de fraude dans sa bouche, il a plu à l'Éternel de le briser par la souffrance. Après avoir livré sa vie en sacrifice pour le péché, mais il verra une postérité et prolongera ses jours, et l'œuvre de l'Éternel prospérera entre ses mains. Ésaïe avait tout décrit. C'est exactement ce qui s'est accompli, exactement, à la pensée prête, à l'histoire précise. Mais il y a Michée aussi, le petit prophète Michée. Au chapitre 5, il dit « La parole de l'Éternel fut adressée à Michée, me fut adressée, au temps de Jotham, d'Akaz, d'Ézéchias, roi de Juda. Prophétie sur Samarie et Jérusalem. Écoutez, vous tous, peuple, sois attentif, terre, et ce qui est en toi, que le Seigneur, l'Éternel, soit témoin contre vous, le Seigneur qui est dans le palais de sa sainteté. Car voici, l'Éternel sort de sa demeure, il descend, il marche sur les hauteurs de la terre. Sous lui, les montagnes se fondent, les vallées s'entr'ouvrent comme la cire devant le feu, comme l'eau qui coule sur une pente. » Vous voyez, tout ça, cette époque, forcément, on ne voyait pas ce qui allait exactement arriver, mais quelque chose allait arriver. Et puis, je vous invite à lire Matthieu, chapitre 2, hein. Jésus étant né à Bethléem en Judée au temps du roi Hérode, voici des mages d'Orient arrivèrent à Jérusalem et dirent « Où est le roi des Juifs qui vient de naître ? Car nous avons vu son étoile en Orient et nous sommes venus pour l'adorer. » Et vous savez ce qui s'est passé, hein, le roi Hérode, hein, il assemblait les principaux sacrificateurs et lui dirent « À Bethléem en Judée ?» Ils lui dirent « Voilà, c'est là qu'il est né. » Et eux-mêmes citent les écrits du prophète. « Et toi, Bethléem, terre de Juda, tu n'es certes pas la moindre entre les principales villes de Juda, car de toi sortira un chef qui pètera Israël, mon peuple. » Regarde la suite un peu pour rattraper l'histoire un petit peu plus loin. Lorsqu'ils furent partis, voici un ange du Seigneur apparut en songe à Joseph et dit « Lève-toi, prends le petit enfant et sa mère, fuis en Égypte et reste-y jusqu'à ce que je te parle, car Hérode cherchera le petit enfant pour le faire périr. » Hérode avait peur qu'un concurrent se lève, adoré par le peuple, et lui, il aurait été chassé, voire tué. Et Joseph se leva et partit. Il y resta jusqu'à la mort d'Hérode, afin que s'accomplisse ce que le Seigneur avait annoncé par le prophète « J'ai appelé mon fils hors d'Égypte. » Alors Hérode, voyant qu'il avait été joué par les mages, se mit en grande colère et il fit tuer tous les premiers-nés garçons de 2 ans. Pour être sûr qu'il mettrait la main, qu'il tuerait Jésus. Mais Jésus était parti avec ses parents. Alors s'accomplit ce qui avait été annoncé par le prophète Jérémie des siècles avant. On a entendu des cris à Rama, des pleurs et de grandes lamentations, Rachel pleure ses enfants et n'a pas voulu être consolée parce qu'ils ne sont plus. Quand Hérode fut mort, voici un ange du Seigneur apparut en songe à Joseph en Égypte et dit : Lève-toi, prends le petit enfant et sa mère et va dans le pays d'Israël, car ceux qui en voulaient à la vie du petit enfant sont morts. Joseph se leva, prit le petit enfant et sa mère et alla dans le pays d'Israël. On constate à trois reprises dans ce récit que la naissance de Jésus, sans être précisément nommée, a été révélée au moins à trois prophètes, Ésaïe, Michée et Jérémie. Ce n'est qu'à la naissance de Jésus où tout ce qui avait été écrit jusqu'à 700 ans avant a pris pleinement réalité, a pris forme et même a pris vie. Ce n'était pas qu'une petite histoire qu'on pouvait raconter au coin du feu. Regarde, je vais te lire quelque chose, il va se passer quelque chose. Et bien là, c'est arrivé. C'est accompli. Le super roi allait naître. Du moins, c'est comme ça qu'il voyait la chose. Jésus allait être le nouveau roi du peuple. Mais pas dans le sens que l'homme pensait le voir. Même l'empereur Auguste joua un rôle important dans le déroulement des événements. Même les païens jouent un rôle dans l'histoire biblique. En effet, il fallait que l'enfant naisse à Bethléem, c'est ce qui avait été annoncé. Or, Joseph et Marie habitaient à Nazareth. Il y avait 100 km. Aujourd'hui, 100 km, on a un coup de voiture, c'est vite fait, un coup de TGV, hein, toi qui viens de Suisse, ou un coup d'avion, c'est encore plus rapide. 100 km à l'époque, ça prenait du temps, hein. Ça prenait plusieurs jours. Voyage déconseillé pour une femme enceinte dans ses dernières semaines. Pourtant, l'enfant ne devait pas naître à Nazareth. C'est là que l'empereur décide de faire recenser tous les sujets de Palestine, entre autres, et chacun devait retourner dans sa propre ville. Joseph, étant de la famille et de la maison de David, devait donc retourner à Bethléem. Et en mathématiques, on dirait CQFD, ce qu'il fallait démontrer. Voilà, on y est arrivé. Pour les fiancés aussi, Joseph et Marie, la situation n'était pas simple du tout. Vous imaginez à l'époque, des fiancés, on apprend que la jeune fille est enceinte. C'était interdit, c'était un blasphème, c'était un déshonneur. Voilà qu'elle est enceinte alors qu'ils n'ont point eu, on va dire les choses quand il dit il n'a pas connu sa promise, c'est-à-dire qu'il n'a pas eu de relation sexuelle avec elle. Il faut dire les choses telles qu'elles sont, il ne faut pas tourner autour du pot, il faut appeler un chat, d'accord ? Il n'a pas connu, c'est poétique, mais... La réalité, c'est qu'ils n'ont pas eu de relation ensemble pour concevoir. Joseph, embarrassé, dit « Bon, on va rompre secrètement, comme ça, ça va calmer les esprits et tu vas pouvoir accoucher. » Parce qu'il n'y avait pas d'avortement à l'époque, hein, bien sûr. Ça aussi, c'était interdit. Mais il n'en fut point. Joseph resta avec Marie. Les prophètes Ésaïe, Michée et Jérémie ont su, dans leur temps, retenir les paroles révélées par Dieu. Et l'ont noté, pour ne pas l'oublier. Là aussi, il faut se souvenir quand même qu'à l'époque, noter quelque chose, c'était pas « je prends mon crayon, je prends une feuille de papier, hop, j'écris, je prends mon ordinateur, hop, je tape un texte, je l'enregistre, j'envoie ». Email, Facebook, Twitter. À l'époque, c'était écrire les textes que nous venons de voir, c'était. Attention, il fallait le vouloir et puis il fallait. pour écrire. Petite parole à leurs yeux de ces prophètes, mais qui allait aboutir à un événement sans précédent. Les paroles du Seigneur sont toutes prendre avec grand intérêt et à ne jamais considérer à la légère. Pourtant, que d'invraisemblance cette naissance. Mais il n'y a rien d'impossible à Dieu. Dieu, c'est le Dieu de la vie. Jésus devait naître même si l'homme n'en comprenait pas la signification, n'en saisissait pas la subtilité. Ce peuple attendait un roi, mais un roi guerrier. Et eux, ils ont vu un enfant grandir et devenir charpentier. Il a exercé le métier de son père. Ce peuple, hanté par ses démons, attendait un libérateur, selon les Écritures. Il est à souligner que ce que Dieu a révélé aux hommes, qui se trouve dans la Sainte Parole, hein, tout ce que nous avons lu, tout ce que je vous ai, tous les textes que je vous ai cités, viennent de la parole de Dieu, de l'Ancien Testament. Tout ce qui a été écrit 700 ans avant se sont accomplis. Les conditions du passé se sont réalisées hier. Jésus est né presque 2000 ans, ok. Mais les conditions d'hier vont se réaliser aujourd'hui et demain. Les promesses que Dieu a faites, les mises en garde que Dieu a faites, s'accompliront. Dieu a montré, en tout cas au travers de ce récit de la naissance de Jésus, que ce qu'il dit, il l'accomplit. Que l'homme prenne garde de ne pas négliger les avertissements du Seigneur. Et il y a encore là-dedans, dans la parole de Dieu, des prophéties pour notre avenir et pour l'avenir de la race humaine, quoi qu'on en dise. L'évangile de Matthieu commence par la généalogie de Jésus. Dieu montre à l'homme son attachement à sa créature, à la famille. Je suis venu comme une lumière dans le monde, a dit Jésus, afin que quiconque croit en moi ne demeure pas dans les ténèbres. Jean chapitre 12, verset 46. Mais les hommes, bien sûr, n'ont pas voulu de cette lumière, car elle devait leur révéler leur péché. L'homme a préféré les ténèbres à la lumière, le mensonge à la vérité, le mal au bien. Dans 1 Corinthiens, au chapitre 4, au verset 5, le Seigneur mettra en lumière ce qui est caché dans les ténèbres et qui manifestera les desseins des cœurs. Nous pouvons nous tromper nous-mêmes, nous pouvons même nous mentir à nous-mêmes. Nous pouvons tout à fait mentir à la personne qui est à côté de nous. Mais on ne peut pas mentir à Dieu. Parce qu'il nous connaît dans nos moindres petites cellules cachées, dans la moindre de nos pensées. Jésus dit même que, bien avant que nous prononcions une parole, Dieu sait ce que nous allons dire. Il sait d'où ça vient. Parce que quand on vit dans l'ombre, hein, si vous imaginez, vous êtes dans votre chambre, la lumière est éteinte depuis un certain temps, et d'un seul coup quelqu'un allume la lumière, paf, on est complètement ébloui. Et là, effectivement, on revoit tout ce qui est autour de nous. Quelle est la signification de Noël pour nous chrétiens? Le simple bébé Jésus? J'espère que non. Est-ce que nous savons apprécier ce cadeau de Noël, la naissance de notre Seigneur? Est-ce que nous avons regardé et gardé cette lumière? avons-nous pris la peine, comme les prophètes, de noter, que ce soit physiquement ou mentalement, ce que Dieu a fait pour nous? Est-ce que nous savons nous en souvenir? Est-ce que nous savons l'en remercier? Dieu s'est fait homme par Jésus. Il connaît la condition humaine. Il a marché avec nous. Il a sali ses pieds dans la poussière. Jésus connaît nos faiblesses, connaît la condition humaine. Pourquoi chercher ailleurs ce que nous avons à portée de main? Pourquoi nous adresser à Pierre, Paul, Jacques? C'est l'expression, hein. Plutôt que de s'adresser à Jésus? Pour ce Noël, souvenons-nous qu'il est né, d'accord? Pour nous apporter un message d'amour, de repentance, de vie éternelle, parce que Jésus n'est pas resté le petit enfant. Il a grandi, c'est devenu un adolescent, un jeune, un adulte. Il a enseigné, il a guéri, il a repris. Son message s'est adressé et s'adresse encore à la terre entière, sans distinction de race, de couleur, de penser, il suffit là, regardez, tournez-vous les uns vers les autres. Est-ce que nous venons tous du même microcosme? C'est encore plus vrai aujourd'hui. Nous venons de plusieurs contrées, de plusieurs même continents. Et là, nous nous retrouvons ici aujourd'hui à parler de la même personne qui nous unit. Fêter l'anniversaire de quelqu'un, c'est bien sûr, c'est se souvenir de lui, c'est l'honorer, c'est l'aimer peut-être un peu plus. En général, quand on fête l'anniversaire de quelqu'un, c'est quelqu'un qu'on apprécie. Mais l'aimer vraiment, c'est penser à lui tout le temps. Est-ce que vous diriez à votre fiancé, votre petite chérie, votre petit chéri, votre femme, je t'aime une fois par an le jour où vous êtes rencontrés? Ah, il y a un an qu'on s'est rencontrés, je t'aime chérie. Je me souviens qu'on s'est rencontrés il y a un an. Mais non, c'est l'amour, ça se partage tous les jours. Quand ça chauffe et quand c'est bien, que ça chauffe aussi. C'est normal, ça entretient la flamme, paraît-il. C'est vrai. En cette période de cadeaux, parce que c'est vrai, c'est la période des cadeaux, hein, c'est là où on s'en fait le plus. Et moi, j'ai toujours, avec ma famille, moi, j'ai toujours fait des cadeaux aux miens à n'importe quel moment de l'année. Quand ça me vient à l'esprit, hop, j'achète un cadeau pour l'un ou pour l'autre. Alors, à chaque fois, ils sont surpris. Pourquoi? En quel honneur? Ben rien, comme ça. J'ai envie de te faire un cadeau. Pourquoi attendre un anniversaire? Pourquoi attendre une fête pour faire un cadeau à quelqu'un? Non. Tu as ça sur le cœur, fais-lui un cadeau. Enfin, ça, c'est ma... Enfin, c'est moi, hein, attention. Hein. Prenez pas tout à la lettre. Hein. Donc, en cette période de cadeaux, qu'est-ce que je vais offrir à Jésus? Imaginons, je ne lui ai rien offert cette année. C'est le moment. Qu'est-ce que je vais lui offrir? J'espère que je ne vais pas lui offrir que les miettes, ce qui va me rester. Ou j'ai tellement dépensé d'argent qu'il ne me reste plus de sous. Là, je parle de la monnaie. Mais au niveau du cœur, qu'est-ce que je peux offrir à Jésus? Mais je pense que vous êtes comme moi. Vous aimez bien recevoir les cadeaux. J'aime bien recevoir les cadeaux du Seigneur aussi. Alors, tout à l'heure, ça m'a touché ce que par rapport à ton travail, Caroline, ce que tu disais. Seigneur, t'as fait un beau cadeau, hein? Amen. Mais je suis sûr qu'il a fait des cadeaux aux uns, aux autres, à des moments. Il faut faire attention de ne pas faire comme si c'était naturel, évident. Il faut savoir s'en souvenir, il faut savoir remercier Dieu, apprécier ce que le Seigneur a pu faire pour nous. Donc je reviens à moi, qu'est-ce que je vais offrir à Jésus? Parce qu'on a tous à offrir quelque chose, même quand on est chrétien. On a tous à offrir quelque chose. Ouvrir la boîte. Vous savez très bien ce qu'il y a dedans à offrir au Seigneur. Alors que moi je disais, j'aime bien recevoir du Seigneur. Mais Jésus a dit, il vaut mieux donner que recevoir. Il y a plus de joie à donner qu'à recevoir. Ça, c'est à méditer, ça. Philosophiquement, c'est intéressant. Il y a mieux à donner qu'à recevoir. Dieu n'est pas contre la fête, hein. On peut faire la fête, là, à Noël. Hein. Mais on peut faire la fête toute l'année. D'accord? Je reviens encore à ma petite pensée, là. N'oublions pas la venue de Jésus, mais quotidiennement. Ça, c'est un exercice. Mais ne pas pas seulement se souvenir de Jésus, voilà, ce petit enfant, comme je disais tout à l'heure. Il est mort sur la croix. Pour nos péchés, on l'a lu tout à l'heure. Mais bien plus. Alors, on pourrait s'arrêter là aussi. Oui, bon, d'accord, ce petit enfant, il a grandi, il a 33 ans, il est mort sur la croix. Bon. Mais il est ressuscité. Il nous a montré la voie, il nous a montré le chemin. Jésus a vécu parmi nous. Ça a été un des contemporains, hein, dans son époque. Il a marché avec les hommes. Il nous a montré la voie. Et il nous a montré comment suivre sa voie. Que le Seigneur bénisse sa parole. Et vraiment, ma pensée, c'est que ça ne soit pas Noël que le 25 décembre. Bon, là, on est un peu en avance. Hein. On est le 11 décembre. On commence. On se prépare. Mais que le 1er janvier, on ne se dit pas, bon, on pensera à Jésus dans un an. D'accord ? Que le Seigneur bénisse sa parole et qu'il vous bénisse aussi. Amen.